Vous écoutez
RMC.
Football Show,
Benoît
Boutron.
Le RMC Football Show jusqu'à 20h avec Fred Piquion. Dans un instant, analyse du fiasco français aux Jeux Olympiques. Les Bleus lourdement battus par le Japon, 4-0 ce midi. 11 buts encaissés en 3 matchs de poule. Peut-on en vouloir à cette équipe de France? 32-16 pour participer au débat. Hubert Fournier, le DTN de la Fédération Française de Football, sera notre invité. À 19h25, un peu de PSG au programme. Quel rôle pour les Titi parisiens cette saison? Plusieurs joueurs formés au club participent à la préparation. Hier, Arnaud Kalimuendo a été très performant en match amical contre le FC Séville. Est-ce qu'ils peuvent se faire une place au milieu des stars cette saison? On en parlera avec Stéphane Roche, entraîneur des U19 parisiens la saison dernière. Et puis à 19h45, les infos foot du jour et la séance de rattrapage. Vous venez au 32-16 pour aborder le sujet de votre choix. Mais je le disais, 25 ans d'attente pour assister à un désastre. L'équipe de France de foot renoue avec les JO cette année à Tokyo, ce qui n'était plus arrivé aux Bleus depuis 1996. Une équipe construite à la dernière minute par Sylvain Ripoll après le refus de plusieurs clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et des clubs étrangers de libérer des joueurs. Bilan 2 défaites en 3 matchs de poule. Une correction infligée ce matin par le Japon, 4-0 et 11 buts encaissés en seulement 3 rencontres. Seule la Serbie en 2004 et les Fidji en 2016 ont fait pire que nous au 21e siècle. On va en parler avec Hubert Fournier, qui est donc directeur technique national de la Fédération Française de Football. Bonsoir Hubert, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
J'imagine que c'est une mauvaise journée pour le football français et la Fédération. Est-ce que vous vivez justement ce fiasco comme un échec de la Fédération?
Moi, je serais tenté de dire que c'est même un échec collectif du football français dans son ensemble. La Fédération, bien sûr, en premier lieu, parce que c'est nous qui organisons la sélection. Mais bon, au vu des atournements et puis des difficultés à pouvoir constituer un effectif, c'est aussi un échec collectif de l'ensemble du football français.
Vous le dites, les responsabilités sont partagées. Est-ce que vous, qui êtes membre de la Fédé, vous en voulez surtout aux clubs qui n'ont pas libéré les joueurs pour participer à ce tournoi?
Oui, bien sûr que ça a été difficile, on l'a bien vu, Sylvain, entre la liste qu'il avait souhaité avoir et puis les joueurs qui sont partis à Tokyo, bien sûr que c'était tout à fait différent. J'ai assisté à sa préparation à Clairefontaine, ça a été assez chaotique, il n'avait que 15-16 joueurs pour travailler, et lorsqu'on est entraîneur, travailler avec 15-16 joueurs pour travailler des combinaisons, créer des automatismes, bon, c'était mission impossible. Donc, il a fait avec les moyens dont il disposait. Je félicite quand même Sylvain déjà d'avoir réussi à qualifier cette équipe. Ça n'avait pas été depuis plusieurs décennies, donc ça c'est à mettre à son crédit. Et le malheur, c'est qu'il n'a pas pu travailler dans des conditions optimales pour bien préparer ces JO. Donc c'est une mauvaise image de notre du football français qui n'en avait pas besoin au travers de la crise qu'on traverse. Et malheureusement, voilà, ça fera partie. J'espère qu'on en tirera en tout cas les leçons et les conséquences pour mieux préparer Paris 2024 dans 3 ans.
Hubert Fournier, le DTN de la Fédération Française de Football, est en direct avec nous. On analyse le fiasco français aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ce qui nous rend dingue, on va être franc avec vous, Hubert Fournier, c'est que ça fait plus de 2 ans qu'on sait que l'équipe de France va participer à ces Jeux Olympiques. Il y avait 25 ans d'attente, on n'avait plus connu ça depuis 1996. Et on a eu l'impression que vous avez découvert ce problème de libération des joueurs un petit peu au dernier moment. Voilà, fin juin, début juillet, on s'est dit c'est la panique, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on appelle. Est-ce que tout cela n'aurait pas pu être géré avant pour préparer au mieux cette compétition très importante pour la France tout de même?
On n'a pas attendu fin juin pour s'en préoccuper. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait aussi un championnat d'Europe aussi qui était aussi en même temps. Et il y a eu des discussions en amont avec les clubs professionnels. Pas mal de clubs ont changé aussi de propriétaire. Il y avait aussi des clubs professionnels qui sont aussi qui traverse une crise aussi importante, et ça a joué aussi dans la constitution des effectifs pour mettre en place cette sélection. Donc non, on n'a pas attendu le dernier moment, mais malgré les efforts à la fois de Marc Keller et du président pour faire en sorte d'entendre la voix de la raison à nos clubs professionnels, bon, ça a été un échec parce qu'on n'a pas réussi à avoir les joueurs qu'aurait souhaité avoir Sylvain sur sa sélection initiale.
Hubert Fournier, on est avec Fred Picken, il a une question pour vous.
Ouais, coach, moi c'est au-delà.
Oui, bonjour, Fred.
Bonjour, tu vas bien?
Oui.
Moi c'est au-delà de tout ce qui s'est passé en amont au niveau des clubs et tout ça. Moi j'aime bien parler du terrain, mais au niveau du terrain et surtout individuellement, est-ce que tu as, comment on peut expliquer le manque d'agressivité, des gestes techniques tout simples, on n'arrivait pas à les faire, des contrôles ratés, des passes mal ajustées. On avait l'impression quand on est spectateur comme ça qu'il y avait pas d'envie. À part, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelques joueurs qui avaient, bon, je vais pas dire qu'ils avaient pas envie d'être là, mais en tout cas sur le terrain ils ne le montraient pas. La gestion des émotions, par exemple le carton rouge de Kolo Muani cet après-midi, et même dans les intentions de jeu, dans l'intelligence de jeu, là c'est pas Sylvain Ripoll qui est sur le terrain.
Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. J'ai la même analyse que toi, forcément. C'est vrai que bon, on a été assez, à part le capitaine qui a été vraiment à la hauteur de l'événement.
Oui.
Mais bon, on peut l'expliquer aussi. Bon, c'est un garçon qui est plein d'expérience. Alors que là, on avait des jeunes qui, pour certains, découvraient la sélection ou qui avaient très peu de sélection. Et c'est vrai que pour être performant en sélection nationale, c'est important d'avoir un vécu. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, on les compte sur les doigts d'une main, les sélections qu'il a avec nos sélections de jeunes. Donc je pense que effectivement c'était un gros événement pour des jeunes joueurs qui manquaient cruellement d'expérience, même dans nos sélections nationales.
Je vous pose la question un petit peu différemment, Hubert Fournier. C'est vrai que ça faisait longtemps également qu'on n'avait pas disputé un championnat d'Europe, ne serait-ce qu'un championnat d'Europe. On y était cette année, on a passé la phase de poule, on a perdu en quart de finale contre les Pays-Bas. Et pourtant, on se gausse un petit peu régulièrement d'avoir les meilleurs joueurs du monde, des joueurs qu'on exporte rapidement, ils jouent tous dans les meilleurs clubs européens. Est-ce que quelque part on se voit pas un peu trop beau, ou est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation de nos jeunes joueurs, parce que c'est vrai qu'on n'arrive jamais à bien les faire jouer ensemble. Qu'est-ce qui cloche en fait, Hubert Fournier?
Alors déjà, bon, on peut quand même se satisfaire que les meilleurs clubs européens soient intéressés par des profils de jeunes Français. Ça veut dire qu'il y a un travail de qualité qui est fait. Après, pour les sélections espoirs, c'est toujours une sélection qui est particulière, hein, parce que on est face à nous avec des jeunes professionnels qui aspirent peut-être au A. Et c'est vrai que la difficulté, et malgré tout, Sylvain a réussi quand même ce challenge, c'est de faire en sorte qu'ils prennent conscience que cette sélection espoir, c'est une sélection importante. Parce que souvent, les intérêts individuels passent au-dessus de la sélection espoir. Et malheureusement, c'est ce qui a fait que depuis de nombreuses années, on a du mal à avoir des résultats probants avec cette sélection-là.
Je vous propose d'écouter d'ailleurs André-Pierre Gignac, qui lui a réussi sa compétition. Il était meilleur buteur jusqu'à aujourd'hui, depuis le Brésilien Richarlison est passé devant. Il a marqué 4 buts tout de même en 3 matchs. Écoutez Gignac, justement, après la défaite contre le Japon ce midi.
Ça a été compliqué, il ne faut pas trouver d'excuses. Le Japon est à la maison, il est prêt, il a décidé de ramener une grosse équipe. Collectivement, c'est très fort. Ils ont commencé au mois de juin. Après, il n'y a pas de secret dans le football. Hein. Ils jouent ensemble depuis très longtemps. Ils sont prêts. Le Mexique, pareil. Moi, je les connais. Je sais qu'ils sont partis en préparation de suite après le championnat. Et ce soir, on est tombé sur plus fort que nous. Le premier match, on est tombé sur plus fort que nous. Ça a été compliqué. Quand tu prends 11 buts dans une compétition où il y a du niveau, ça pardonne pas.
Et c'est ça qui nous fait mal, Hubert Fournier. On a l'impression que les autres ont beaucoup mieux préparé l'événement que nous. On a l'impression que les jeux étaient plus importants pour nos adversaires que pour nous. C'est ça qui est dur à digérer pour les supporters de l'équipe de France.
Ah bah, pour les supporters de l'équipe de France, pour les Français dans leur ensemble, hein, c'est vrai que c'est difficile. Je parle de l'image du football qui est écornée au travers de ce qu'on a pu montrer comme image. Donc ça doit nous poser des questions et faire en sorte de mieux préparer 2024, parce que sinon il est hors de question d'afficher la même image du football français sur une Olympiade qui va se passer sur notre pays.
Mais quels sont nos moyens d'action? On avait le président Le Graët qui était avec nous à 18h15 qui nous a dit effectivement je veux discuter avec la FIFA pour que les dates olympiques soient rentrées comme des dates FIFA, c'est-à-dire que les joueurs aient obligation de libérer les joueurs pour qu'ils puissent participer au tournoi. Ça d'accord, mais quels sont vos moyens, vous, à la Fédération, pour faire en sorte qu'on soit plus performant dans ces équipes de jeunes et dans cette équipe olympique en vue de 2024?
Bah, je vous cache pas que on est quand même relativement impuissant parce que on n'a pas, on peut pas contraindre les clubs à libérer. Et puis quelque part, ça met une pression aussi importante sur les joueurs parce que certains, je suis persuadé, avaient envie aussi de vivre l'aventure olympique, mais n'ont pas voulu se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leur club. Et ça, on peut le comprendre. Et donc, le président et moi, je trouve que c'est la bonne démarche. Et c'est de trouver un consensus entre le CIO et la FIFA pour qu'on arrive à avoir des dates qui soient coordonnées et qui permettent à la fois aux joueurs et puis aux fédérations de mieux préparer cette compétition qui est un moment important pour le sport français. Et on souhaiterait tous que le football participe aussi pleinement à la fête.
Vous le disiez, l'événement qui arrive, évidemment, c'est Paris 2024. On est déjà à 3 ans de l'échéance. On reçoit les Jeux Olympiques. On est qualifié en tant que pays organisateur. Et là, on n'a pas le droit de se louper, Hubert Fournier. Là, il faut qu'on aligne une équipe performante. Qu'est-ce que vous allez mettre en place dans les mois qui viennent pour être sûr, justement, qu'on aura une équipe compétitive?
C'est de continuer la communication et le dialogue avec nos clubs, mais vous n'êtes pas sans savoir que énormément de nos jeunes susceptibles de pouvoir préparer de 2024 sont pour la plupart dans des clubs étrangers. Et donc là, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un dialogue constructif avec les clubs, parce que, et bon, je remercie quand même au passage les clubs mexicains qui ont eu la délicatesse de libérer quand même de nos joueurs alors qu'ils étaient dans le même groupe. Ça prouve que bon, on est capable aussi certains pays d'avoir ce geste vis-à-vis du sport olympique. Mais oui, il va falloir avoir un dialogue constructif avec les clubs étrangers et métropolitains pour nous permettre de mieux préparer l'échéance des JO à Paris.
Après, l'exemple des Tigresses est particulier parce que Thauvin vient de signer et André-Pierre Gignac est la légende du club et lui a dit quoi qu'il arrive aux Tigresses, moi j'irai au tournoi olympique. Donc forcément, lui, il avait un moyen de pression que les autres n'ont pas, en tout cas ceux qui sont dans la catégorie d'âge, puisqu'effectivement Gignac et Thauvin, eux, sont hors catégorie d'âge, tout comme TJ Savanier qui avait été libéré, lui, par Laurent Nicolin et qui s'est blessé malheureusement ce midi contre le Japon. Ça aussi, ça, c'était la crainte principale des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Malheureusement, ça va peut-être pas les rassurer de voir Savanier qui se blesse pour Montpellier et qui va peut-être louper le début de saison, Hubert Fournier.
Oui, c'était une des raisons invoquées par les clubs et je peux les comprendre. Et puis moi, j'ai été entraîneur aussi il y a pas si longtemps que ça et je peux comprendre aussi les techniciens de protéger aussi leur début de saison. Ça, je peux l'entendre. Mais bon, il faut aussi avoir conscience que notre fédération, représenter le sport français et donc il fallait avoir quand même quelque part une démarche beaucoup plus constructive que ce qu'on a pu avoir.
Ils peuvent se blesser aussi dans les matchs amicaux, hein. ça veut rien dire.
Oui,
histoire de blessure, ça je suis pas pour cette excuse là moi.
La blessure de Savanier, bon, ça va. Je pense que ça va. J'espère que ça va pas trop l'handicaper, mais on peut avoir des blessures graves, effectivement, comme le dit Fred, aussi lors des matchs de préparation. Ça, je l'entends, mais ça fait partie, en tout cas, des arguments poussés par beaucoup de clubs pour contraindre de libérer certains joueurs que aurait souhaité Sylvain Ripoll.
19h14 sur RMC. Merci Hubert Fournier d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur technique national de la Fédération française de football. Juste pour terminer effectivement sur cette équipe de France, Noël Le Graët nous a dit à demi-mot qu'il confirmait en tout cas Sylvain Ripoll, lui qui malheureusement a subi 2 échecs cet été avec ce quart de finale de l'Euro Espoir perdu contre les Pays-Bas et cette sortie de route prématurée aux Jeux Olympiques avec 11 buts encaissés, on le disait. Vous êtes sur la même ligne que votre président, j'imagine. Vous pensez qu'il faut continuer avec Sylvain Ripoll ou ça vous semble délicat vu les résultats obtenus?
Non, franchement, on peut toujours. C'est sûr qu'on a été déçus du championnat d'Europe et le président a bien échangé. mais on peut pas lui imputer ce qui s'est passé au JO parce que les conditions n'étaient pas du tout réunies pour assurer une performance à l'équipe et franchement ça serait injuste de lui imputer la sortie de route de l'équipe de France sur ces JO parce que bon il y avait trop d'éléments contraires pour lui permettre d'évoluer avec tous les arguments qu'on aurait pu avoir donc je suis tout à fait aligné avec le président Sylvain il a fait un parcours qui lui a permis de se qualifier pour les JO malheureusement on lui a pas donné toutes les armes pour avoir la chance d'aller plus loin dans ces Jeux Olympiques et Dieu sait que on le savait très motivé et qu'il a passé des nuits difficiles.
Merci Hubert Fournier d'avoir été avec nous sur RMC, DTN de la Fédération Française de Football. À bientôt sur RMC, on espère évidemment que les Bleus feront beaucoup mieux en 2024 à Paris pour ces Jeux Olympiques. Au revoir Hubert, merci beaucoup. On passe la parole tout de suite à vous qui nous appelez au 32-16. Le premier c'est Vincent, supporter lyonnais, qui en veut un peu tout le monde. Salut Vincent.
Ouais, bonjour. Ouais. Bonjour, un petit peu à tout le monde. Ouais. Je pense un petit peu comme vous. Hein, ouais. Là, pour faire rapide, parce que je sais que je suis pas le seul à parler. Mm-hmm. J'ai trois points. De toute façon, c'est facile. Hein. Il y a le président, il y a l'entraîneur, il y a les joueurs. Hein. De toute façon, il y a qu'eux qui sont en cause là-dedans. Donc, pour moi, les joueurs, personnellement, pour moi, ça a été un fiasco. Ils ont pas été au niveau. Je pense que Fred, qui a joué au niveau, il a vu les matchs et je pense qu'il va pas me contredire.
Ouais, mais c'est la première question que j'ai posée aussi à Hubert Fournier parce que c'est vrai quand tu es sur le terrain et que tu montes l'agressivité que tu n'as pas, l'envie pour certains, mm-hmm. les gestes techniques, des passes à 2-3 mètres et tu fais des contrôles à 10 mètres.
Ça, c'est pas lié pour vous à la préparation.
Non. Attends, les placements et tout, ils jouent au football depuis combien de temps.
L'intelligence de jeu.
C'est la base, on va dire. C'est la base. On peut être un bloc, on peut être une équipe, on peut être un bloc. Sans dire, bien sûr, on sait qu'ils jouent pas ensemble depuis l'âge de 12 ans. Donc, on sait qu'il n'y a pas d'automatisme et tout, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment, on peut jouer en bloc équipe et on peut montrer un autre visage que ce qu'ils ont montré. Enfin, maintenant que ça s'est dit, on va dire, voilà, les joueurs, premier fiasco. Pour moi, ils n'ont pas été au niveau. Bon, bien sûr, il y a Gignac, Bernardoni, etc. Je peux peut-être citer 2-3 joueurs qui sortent du lot. Ouais. Mais sinon, pour le reste, on va dire, ils n'ont pas.
Qui a fait ce qu'il a pu.
Savanier qui n'a pas été mauvais. Enfin, on va dire, à part quelques-uns. Sinon, pour moi, on va dire, ils n'ont pas été au niveau. Sans dire, ils ont été catastrophiques. Je vais peser mes mots. On va dire, ils n'ont pas été au niveau. Ensuite, maintenant, Sylvain Ripoll, moi, faut que Noël Le Graët, faut qu'il m'explique, hein. Bon, je parlerai de lui dans le troisième point. Mais comment est-ce qu'il peut dire qu'il est pas, enfin, que pour lui, ses résultats, ils sont cohérents? Je suis cohérent de quoi? Je veux dire, toutes ces compétitions qu'il fait, il les perd. On n'a pas l'impression que ce soit quelqu'un qui ramène une grande cohésion dans ses équipes. Après, c'est un professionnel, peut-être qu'il travaille bien. Moi, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment, est-ce qu'on a le droit de se poser la question? Tout simplement que ce n'est pas l'homme de la situation. Est-ce qu'on a le droit de se poser la question?
Mais tu as raison.
Et voilà, donc c'est peut-être pas l'homme de la situation. Donc il y a un moment, on voit que ça marche pas. T'as bien bossé, t'es quelqu'un de compétent, ça marche pas. Ben excuse-moi, mais on va changer. Et ben j'ai l'impression malheureusement que en 2024, ça va être encore Sylvain Ripoll à la tête de cette équipe. Et moi, j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça change pas? Ça me fait penser un petit peu à Didier Deschamps, mais sauf que Didier Deschamps, il est champion du monde, lui.
Ouais, c'est dur à comprendre.
C'est un peu différent. Voilà. Oui, ça veut dire que les gens, ils aiment pas comment l'équipe de Didier Deschamps, elle joue, mais il est champion du monde. Alors, on peut rien dire. Alors, c'est normal que Noël Le Graët, il patiente, voilà, pas de souci. Mais là, il perd tout. Donc, faut m'expliquer quelle est la raison. Alors, c'est politique?
Vincent, j'entends ce que tu dis. Je pense, malgré tout, que l'échec à l'Euro lui est plus imputable que l'échec aux Jeux Olympiques, parce qu'effectivement, il y a eu un groupe qui était compliqué à mettre en place. À l'Euro, il avait tout le monde, il avait une équipe fantastique, et là, effectivement, ça s'est arrêté dès les quarts de finale contre les Pays-Bas, même s'ils étaient sortis de la phase de poule. Mais ce qui me surprend un peu, Vincent, dans ton propos, c'est que tu n'en veux pas du tout aux clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et aux clubs étrangers qui n'ont pas libéré les joueurs. Ça, tu penses que c'est pas une excuse?
Moi je pense que si, ça peut être une excuse, mais après, est-ce que Noël Le Graët, est-ce qu'il a fait son travail pour prévenir longtemps à l'avance? Voilà.
C'est ça la question.
Il va avoir des Jeux Olympiques, on a besoin de joueurs.
Ça fait deux ans qu'on sait qu'on doit les disputer, ils ont été remportés d'un an en plus. Ouais.
Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils ont eu le temps. Donc c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute aux dirigeants ou est-ce que c'est à la faute à Monsieur Le Graët? Parce que ça, le premier des fiascos pour moi, c'est quoi? C'est la liste des joueurs sélectionnés. Ça, pour moi, c'est le premier fiasco. Déjà, d'entrée de jeu, à quelques jours des jeux, on apprend lui, finalement, ils veulent pas nous le laisser. Pour moi, déjà, c'est le premier fiasco. Déjà, d'entrée de jeu, on sait que ça va mal se passer. Donc ça, c'est la faute à qui?
Après, tu
es dans
l'urgence.
Moi, je sais pas si c'est dirigeant ou si c'est Noël Le Graët. Faut, si vous avez la réponse, dites-la moi, mais moi je sais pas du tout.
Je pense,
et Noël Le Graët, pour terminer, pour moi, il est à côté de la plaque. Hein. Je veux dire, moi je comprends pas pourquoi il y a aucune remise en question de sa part. T'as fait un choix, t'as voulu mettre Sylvain Ripoll, pas de problème. Ça fonctionne pas, il faut changer. Il y a
et
pas de
c'est
mal.
Vrai que malheureusement,
il faut accepter.
Quand on prend un peu de recul et qu'on analyse la situation du football français, oui, il y a eu ce titre de champion du monde en 2018. Depuis, les résultats sont très moyens, voire mauvais. La Coupe du Monde féminine s'est mal passée pour l'équipe de France.
T'as fait une finale d'Euro, quand même.
T'as fait une finale d'Euro avec
en 2016.
Non, mais je te parle depuis 2018.
Ah, pardon.
Ouais, depuis le titre de champion du monde. À part l'équipe de France A, effectivement, qui a d'ailleurs a subi un échec en huitième de finale à l'Euro cette année. Les équipes de jeunes, ça marche pas. L'équipe de France féminine, ça marche pas. Il y a une vraie remise en question à faire au niveau de la fédération, que ce soit pour les garçons ou les filles, les jeunes ou les moins jeunes. Il faut peut-être faire quelque chose. Et ça, c'est vrai qu'il y a un sacré chantier de ce côté-là. Merci Vincent d'avoir été avec nous.
Le patron, pour lui, dit que tout va bien. Enfin bref, on verra. Peut-être qu'il changera quelque chose. Mais 2024, je pense que ça va pas changer, malheureusement. Mais on verra. J'ai peut-être tort.
Et ça vient très vite. C'est dans 3 ans, les Jeux de Paris 2024. Donc forcément, on va y arriver très vite. 19h20 sur RMC, on continue justement d'analyser ce fiasco de l'équipe de France Olympique dans le tournoi éliminé après une défaite 4-0 contre le Japon. Et on donne la parole à Clément, supporter de l'équipe de France. Salut Clément.
Salut.
Bonsoir Clément.
Bon Clément, bonsoir. À qui tu en veux, toi, plus particulièrement?
Moi, j'en veux, comme disait Vincent, j'en veux à Monsieur Ripoll, j'en veux au président, j'en veux même aux joueurs, un peu à tout le monde, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est un petit peu le même propos que Vincent, quoi. T'es fâché contre tout le monde, ouais.
Ouais, un peu, voilà. Moi, quand je vois c'est vraiment le 11 aligné par Sylvain Ripoll, je trouve que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On perd 2-0 à la mi-temps, il n'y a aucun changement. Alors oui, je pense qu'il a entraîné une équipe pas dans les meilleures conditions, mais il y a quand même des joueurs, je suis désolé, qui jouent en Ligue 1. Je prends l'exemple de Clément Michelin qui sort d'une très bonne saison avec le RC Lens. Et, je veux dire,
tu l'as pas reconnu sur le terrain.
Non, clairement, c'est une
franchement,
catastrophe.
T'as vu ça?
Ah, lui, il a appris. Alors lui, c'est le cas typique, parce qu'on peut vous le dire, on le connaît bien à RMC. Lui, il a appris vraiment au dernier moment qu'il était sélectionné pour les Olympiques. C'est pas forcément une excuse pour excuser toutes les performances, mais lui, il était vraiment en vacances dans sa tête, il allait reprendre avec le RC Lens, quoi. Il a appris au dernier moment qu'il allait faire les Jeux Olympiques.
Comme Kaloulou, qui joue quand même au Milan AC. Alors il fait peut-être pas tous les matchs, mais je veux dire, c'est pas non plus un peintre. Et je trouve ces matchs qu'il a fait, c'était une catastrophe, ça suivait pas défensivement, et heureusement, je trouve, qu'on a pu sélectionner Gignac. Thauvin, il aurait pas été là, ça aurait pas changé grand chose.
Ah, Thauvin est passé à côté de sa compétition.
Ouais. Ouais, exactement, je trouve heureusement qu'on peut sélectionner quand même des joueurs qui sont au-delà d'un certain âge, parce que s'il y avait pas, je pense, Gignac, on finissait quatrième, et puis c'était fini déjà face à l'Afrique du Sud.
Mais ce qui nous frustre, les gars, c'est qu'on aurait pu avoir une équipe fantastique. Bon,
exactement.
Évidemment, on rêve tous de Kylian Mbappé, on aurait aimé le voir. Lui, il n'était pas hors catégorie d'âge, en plus, il a que 22 ans. Donc
non, et c'est ça,
il
exactement.
Pouvait être dans cette équipe et recruter d'autres joueurs de qualité. Je pense à Kamavinga, je pense à Aouar. On aurait pu avoir une équipe fantastique, disputer ce tournoi très sérieusement. Et finalement, on a l'impression que c'est un peu la faute de tout le monde. C'est la faute des clubs, c'est la faute de la Fédé qui ne s'est pas concentré justement dans la préparation de cette compétition. Et malheureusement, on se retrouve avec un échec comme celui-ci. On ne laisse pas une bonne image de l'équipe de France de foot qui n'avait pas joué les Jeux depuis 1996. Quoi.
C'est ça, tout à fait. Si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien de les faire. Et puis, comme disait Vincent tout à l'heure, pareil, au niveau de la Fédération, je trouve qu'il y a, un monsieur Le Graët, c'est plus possible. Je trouve qu'il a... Alors, il s'occupe que de.
C'est lui qui a été réélu.
Il a été réélu.
C'est dommage. Parce que pour moi, il s'occupe que des A. Il n'y a pas au niveau de. Que ce soit même au niveau du foot féminin, au niveau des espoirs, j'ai l'impression que ça lui passe par-dessus la jambe. Et là, il vient de remettre M. Ripoll encore une fois.
Il a dit qu'ils allaient discuter, mais que pour lui, dans son esprit, il allait le conserver à son poste.
Et à partir de là, je veux dire, c'est consternant. C'est consternant.
Merci Clément.
Est-ce que je peux juste passer une toute petite dédicace?
Bien sûr, tu peux, vas-y.
Je voulais passer une petite dédicace à Maxime, Axel, Thomas et Eva qui m'écoutent. Et puis je voulais dire aussi que c'est une grande fierté de passer à RMC. Je vous écoute depuis longtemps et ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir passer à la radio.
Eh ben, on a été ravis de t'accueillir. Ravis, et tu rappelles quand tu veux le 32-16, la radio est ouverte à tout le monde. Vous appelez si vous voulez parler avec
Supporter de quel club, toi?
Alors moi, Clément, j'avais vu supporter de l'équipe de France seulement. Mais Clément, t'es encore là? T'es supporter de quel club, toi?
Du FC Nantes.
Ah, FC Nantes.
Ah, super. Ah oui, bah, alors,
tu souffres, franchement.
Oui, entre le FC Nantes et l'équipe de France Espoir, c'est compliqué.
Ah oui, c'est un peu dur en ce moment. Bon, ouais,
on te souhaite beaucoup de courage. Un grand merci à vous d'avoir passé à la radio.
Merci à toi, Clément. Tu rappelles quand tu veux. 19h24, on va écouter de nouveau André-Pierre Gignac, justement. Il a parlé effectivement de ce match contre le Japon. Il a parlé plus globalement de cette préparation un peu tronquée. Écoutez les propos d'André-Pierre Gignac au micro de Jimmy Brown juste après le match.
C'est des souvenirs marqués à vie. Au-delà de tout ça, moi je suis venu pour faire quelque chose, je suis venu pour donner le meilleur de moi-même, je suis venu pour essayer de passer le premier tour, je suis venu pour essayer de ramener une médaille à la France. Mais dans ces conditions, c'est trop compliqué, il faut dire ce qui est. Les deux équipes que je vous ai nommées, c'est au-dessus de nous. Ça fait des années, ils jouent ensemble, ils se sont préparés pendant 4 ans pour les Jeux Olympiques. Il ne faut pas être aveugle, voilà, pour voir que collectivement, les équipes, elles ont été meilleures que nous.
Un joueur comme Gignac, ça doit le rendre fou de sortir de cette compète comme ça avec 2 défaites, 11 buts encaissés, alors qu'il a mis 4 buts. Fred, c'est terrible pour lui.
Ouais, c'est terrible parce qu'il avait, c'est un joueur qui a montré qu'il avait envie de participer à cette compétition. Il a tout fait en tout cas pour y être. Et puis même sur le terrain, ça a été la locomotive de cette équipe de France, le capitaine. Et on n'a rien à lui reprocher. C'est vrai que c'est lui qui prend la parole parce que c'est lui le capitaine. Donc forcément les radios vont vers lui, la télévision va vers lui, mais Il a raison. Le Mexique est au-dessus, le Japon était au-dessus, même l'Afrique du Sud, s'il n'y a pas un miracle dans le match, ils étaient au-dessus aussi. Donc on va rentrer tranquille, la queue entre les jambes, et puis repartir entre guillemets du bon pied pour les prochaines échéances des espoirs, et surtout bien préparer le 2024, parce que ça aussi, ça va arriver très vite.
Exactement. Je vous lis quand même la réaction de Sylvain Ripoll après cette élimination au premier tour. Ma première pensée est d'être reconnaissant vers les joueurs qui ont accepté de venir au jeu dans des conditions pas faciles. Le niveau international d'un tournoi olympique, c'est très élevé. Il faut être lucide et reconnaître qu'on n'a pas été au niveau d'un tournoi comme celui-là. On finit à notre place dans ce groupe-là. J'aurais aimé que les joueurs aient une autre récompense. Il y a bien évidemment des choses qui sont de notre responsabilité, notamment de la mienne. Nous aurions dû faire mieux. Il est important de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas de la responsabilité des joueurs. Je précise que toute cette équipe prendra l'avion demain, retour en France, et comme ce ne sont pas des dates FIFA, les joueurs vont immédiatement retourner dans leur club. Il n'y a pas de vacances pour les joueurs. Retour à la Ligue 1, à la Ligue 2 ou pour les championnats étrangers pour ceux qui sont concernés. Et je précise également que ce tournoi olympique se poursuit sur RMC. Je vous donne d'ailleurs les quarts de finale qui auront lieu samedi. Espagne-Côte d'Ivoire, Japon-Nouvelle-Zélande, Brésil-Égypte ou encore Corée du Sud-Mexique. Notre direct, c'est un match amical pour l'AS Monaco. On est à une semaine du troisième tour préliminaire. Allez pour les Monégasques, pour la Ligue des Champions évidemment. Monaco qui joue la Real Sociedad ce soir, Clément Brossard, on en est où?
Ouais, c'est la 66e, une grosse volée juste à l'instant de Crépin Diata qui a frôlé la cage du gardien de la Real Sociedad. Il y a un partout entre la Real et l'AS Monaco après 66 minutes de jeu. On a vu les premiers pas cette saison, en tout cas en amical de Wissam Ben Yedder et de Kevin Folland en première mi-temps. T'avais vu juste, ils sont sortis à la pause. Ah ouais. Donc ils ont joué 45 minutes les deux. On a fait rentrer à la place Anthony Moussaba qui a eu tout à l'heure un face-à-face manqué face au gardien de la Sociedad. Il y a également Folland donc qui est sorti. On a fait sortir les milieux, ouais, une grosse revue d'effectifs avec l'entrée notamment de Fabregas, de Fofana, de Crépin Diata, et du côté de la Sociedad on commence à tirer un petit peu la langue aussi parce que les Espagnols ont une semaine en moins de préparation et ça compte. Monaco qui termine mieux, qui termine plus fort parce qu'il y a du coffre physique, ils ont beaucoup travaillé physiquement pendant les deux stages en Autriche et ça se ressent sur le terrain. 67e pour l'instant à partout entre la Sociedad et Monaco.
Tiens, et puis on parlait tout à l'heure du match amical entre Troyes et Metz, je vous rappelle que Troyes a pris un carton rouge en première période et du coup Metz, de manière fair play, a proposé à 3 de rejouer à 11 tout de même pendant la seconde période.
Bah, c'est bien.
Donc ça serve aux deux équipes. Bah, pas comme Lille amical, qui avait joué à 9 toute une mi-temps dans un match amical.
Ça, c'est l'esprit.
Ouais, ça n'a aucun intérêt pour les deux clubs. Bah là, Metz a dit à 3, non, mais rajoutez un joueur. On veut bien se préparer, tout comme vous. On est à 10 jours de la reprise de la Ligue 1. Ce sera vendredi de la semaine prochaine, évidemment, avec ce Monaco Nantes. Merci Clément. Fred, dans un instant, on parle du PSG et du rôle à venir pour les Titi parisiens, ceux qui sortent du centre de formation. Eh oui, on va parler du PSG. Est-ce qu'ils pourront s'immiscer au milieu des stars parisiennes? On va en parler justement avec Stéphane Roche, qui était entraîneur des U19 la semaine dernière. À tout de suite sur RMC.
RMC Football Show,
Benoît Boutron. Avec Patrick Hume jusqu'à 20h sur RMC. Dans une demi-heure, vous avez rendez-vous avec Adrien Aigouin, l'After Tokyo 2020. Évidemment, un retour sur la médaille d'or olympique décrochée par Mathieu Androdias et Hugo Boucheron en aviron. Ça fait 8 médailles pour l'équipe de France, dont 3 en or, ça se passe plutôt pas mal. Mis à part le foot, Fred, tout va bien pour l'équipe de France
ça va,
aux Jeux Olympiques. On voulait parler un petit peu du PSG ce soir, parce que Paris va lancer sa saison dimanche, Trophée des champions en Israël contre Lille. Il y avait le dernier match de préparation hier au Portugal face au FC Séville. Match nul, deux partout pour une équipe du PSG remaniée. Cette rencontre a été marquée par la prestation d'Arnaud Kalimuendo, hein, qui était prêté la saison dernière au RC Lens. Qui est un attaquant formé au Paris Saint-Germain, qui est impliqué sur les deux buts parisiens. Et on se demande un peu quel va être le rôle justement de ces Titi parisiens sur cette saison qui arrive pour Paris. Les matchs vont s'enchaîner, il y a beaucoup de stars qui sont arrivées, mais auront-ils un rôle à jouer? On va en parler avec Stéphane Roche, entraîneur des U19 parisiens jusqu'à la saison dernière. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir à tous, bonsoir Benoît, bonsoir Fred. Bonsoir.
Merci Stéphane d'être avec nous, vous les connaissez par cœur hein, tous ces jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. Déjà, est-ce que vous êtes surpris d'en voir autant dans la préparation de Mauricio Pochettino?
Ben, je pense que s'ils sont là, c'est qu'ils en avaient besoin déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de cadres absents, donc c'était une grande opportunité pour tous ces jeunes de suivre la préparation dès le début de la saison pour pouvoir être un peu plus opérationnel et de connaître un petit peu plus les rouages du groupe pro.
Comment ça se décide, savoir quel jeune va intégrer justement la préparation des pros? C'est des discussions entre vous, entraîneurs de jeunes, et le staff professionnel? C'est Mauricio Pochettino qui choisit en fonction des postes? Comment ça se passe, Stéphane Roche?
Bien entendu, il y a Leonardo qui connaît l'ensemble des jeunes au niveau de la formation, qui a comme adjoint Angelo Castellazzi, qui les suit un peu plus précisément tout au long de leur cursus. Donc c'est un peu dans une connexion entre les staffs, mais surtout entre Léo et puis le coach.
Parce qu'il y a des joueurs qui sont très jeunes, je pense à El Shaddai Bichabou qui lui a 16 ans, qui va avoir 17 ans ou qui vient d'avoir 17 ans, qui est déjà intégré à cette rotation, ça veut dire qu'il a beaucoup de potentiel?
Oui, tous les joueurs ont un potentiel pour s'ils sont déjà, je dirais, dans le parcours de formation du Paris Saint-Germain. Bien entendu, certains sont très jeunes, d'autres le sont un petit peu moins et sont, je dirais, dans un timing plus en adéquation, je dirais, avec leur âge, comme Arnaud Kalimuendo, voire Xavi Simons. Mais c'est vrai que El Shaddai en particulier, c'est assez, je dirais, dans le milieu aujourd'hui du football, c'est assez rare.
Ça vous surprend ou vous dites qu'il a les qualités pour être à ce niveau-là? C'est vraiment un grand espoir du club?
Sont tous des espoirs, mais en même temps, je dirais, ce n'est qu'une préparation. Aujourd'hui, c'est aussi pour étoffer le groupe, pour que l'ensemble du collectif fasse un meilleur travail au quotidien durant cette préparation sans les cadres. Donc, c'est une opportunité pour eux. Après, bien entendu, c'est aussi comme ça que certains jeunes sont capables de lancer une carrière un peu plus tôt que d'autres. Et puis, c'est une expérience très enrichissante pour eux.
Après, toi, t'as été joueur pro dans de grands clubs comme Monaco ou comme Lyon. T'as vécu ces moments, ces débuts de préparation où on intègre des jeunes. Il y a vraiment des places à aller gratter pour eux dans le groupe professionnel sur les matchs de préparation?
Ça dépend du club, ça dépend des ambitions du club, ça dépend quelles sont aussi les ambitions du club à travers les jeunes. Oui, il y a des clubs qui font jouer les jeunes, il y a des clubs qui vont chercher ces jeunes-là dans les centres de formation, qui leur donnent la chance de pouvoir jouer. Mais à Paris, c'est très compliqué pour revenir à la question, même si Paris fait partie des meilleurs centres de formation, mais finalement, il y en a, à travers le critère en tout cas qui est du temps de jeu au sein de l'équipe première, ouais. Paris fait partie des clubs qui a très peu d'étoiles parce que finalement on s'aperçoit que ils vont préférer aller chercher un autre joueur beaucoup plus confirmé parce que c'est la Ligue des Champions, parce que c'est les paillettes, parce que il faut aller chercher un championnat et la chance du jeune, eh ben
Elle est limitée, quoi.
Est limitée, et puis
vraiment être extrêmement performant.
Et puis comment il s'appelle? Et puis coach, tu es assez, t'étais au club pour le savoir. La plupart de tes jeunes sont partis à l'étranger, voire être prêtés et performent ailleurs, quoi.
Oui, c'est vrai que certains sont partis à l'étranger, et confirment à l'étranger. Après, moi j'ai bon espoir aussi pour certains jeunes qui ont envie de rester au PSG aussi. C'est une volonté aussi de vouloir rester au PSG. Mais il est vrai que pour certains, c'est peut-être plus opportun, peut-être de passer un palier supplémentaire où la marche est trop haute au Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, je pense qu'un Arnaud Kalimuendo est complètement prêt.
Dans la rotation, il peut être dedans.
Voilà, Oui. Xavier Simons aussi. Certains sont un peu plus prêts que d'autres.
Est-ce que tu penses qu'il y a des postes un peu plus faciles, entre guillemets, pour intégrer l'équipe première? Parce que on s'aperçoit que Pembélé, c'est ça, oui, il me semble.
Qui était avec l'équipe de France,
il a joué la saison dernière. Sako, qui a joué en équipe première aussi. Tu as Kipembe, qui est un titulaire indiscutable. Ça fait, il y a des postes derrière. Est-ce que, parce que, attaquant, t'as vu, il faut marquer des buts, il faut être décisif.
En gros, je reformule la question de Fred. Est-ce que pour un défenseur, c'est plus facile que pour un attaquant?
Moi, je dirais Non, je pense que c'est la capacité aux jeunes joueurs, à un moment donné, à donner très envie au coach et après à prouver à ses partenaires qu'il est capable de prendre des relais. Et puis, moi, je me souviens de Karim Benzema, dans l'esprit, qui avait dit dans la déclaration de ses premières. Je suis là pour prendre votre place, mais de façon en toute humilité aussi. Non, je pense que n'importe quel jeune joueur, à partir du moment où il s'entraîne dans le groupe pro, peut être amené à donner envie au coach et puis après à s'intégrer, puis à réussir le challenge, de réussir ses premières minutes, ses premières rentrées et puis après sa première titularisation. Pour un défenseur, t'as mon petit qui à Lyon a débuté très jeune. Corentin Tolisso a débuté très jeune, pour ceux que je connais un peu plus personnellement aussi.
Oui, mais c'est une tradition lyonnaise, Stéphane. C'est un peu moins le cas à Paris. C'est plus dur de s'installer dans cette équipe parisienne. Les vrais exemples qui ont fonctionné, il y a qui? Adrien Rabiot, Pascal Kimpembe, Tanguy Kouassi avant qu'il parte au Bayern.
Oui, il a débuté très jeune. J'ai le souvenir de génération parisienne, Pascal Nouma, qui est un peu plus.
C'était pas le même PSG, Stéphane.
Voilà, c'était peut-être pas le même PSG, mais aujourd'hui ils sont dans l'effectif qui s'entraîne au quotidien. Donc c'est aussi la force d'un jeune d'être capable. Certains sont plus à même de réussir plus tôt que certains. C'est aussi une réalité dans leur parcours de formation.
Pourquoi t'as le sourire quand tu dis Bernard Mendy et que tu me regardes?
Mais non, parce que c'est vrai. Bernard, il a commencé jeune, il a été formé.
Et là, on a tous les postes. Et finalement, on a tous les postes. Gardien de but, il y a eu quelques jeunes gardiens de but aussi. J'ai envie de dire, c'est pour ça. Enfin, c'est vrai qu'on parle souvent de postes qui sont un peu plus à responsabilité, comme défenseur central, on a entendu. Mais sinon, moi, je vois plus dans la capacité aux jeunes à être plus précoces que d'autres.
Stéphane, vous avez un œil de formateur. Est-ce que, en fait, en connaissant les jeunes, vous dites celui-ci, il est taillé pour le haut niveau, celui-ci pourrait y arriver, alors que celui-ci, non? Est-ce que ça vous saute aux yeux au bout d'un moment, au fur et à mesure de la saison?
Vous aussi, en tant que, analyste, ou les supporters, tout le monde est capable de se faire un avis. D'où la chance qu'on a, et pour être un peu plus précis, c'est qu'on les a au quotidien.
C'est-à-dire
qu'on les voit grandir. Donc après, il y a des détails sur lesquels on est plus à même à se dire, là, ça va passer, c'est sûr que ça passe. Là, il va falloir encore un peu de temps. Là, il va falloir qu'il fasse évoluer son jeu. Enfin, en fonction de chacun est un peu plus spécifique. Mais c'est le quotidien qui nous permet d'être plus précis dans notre évaluation et notre jugement sur le timing du passage.
Ouais, Stéphane, il y a aussi, tu sais, les joueurs sont de plus en plus pressés. Et est-ce qu'il y a des parents, voire des conseillers, des agents qui viennent te poser la question, est-ce que je dois rester au PSG, est-ce que je dois partir, je ne vais pas dire le pouvoir, mais oui, est-ce que tu donnes des conseils à ces jeunes-là?
Moi,
et leur entourage?
Je trouve que réussir dans son club formateur, c'est une première étape pour lancer
sa carrière.
Oui. Après, je ne peux pas nier non plus que certains ont fait le choix de signer leur contrat professionnel ailleurs qu'au PSG et c'était peut-être un bon choix parce qu'ils auront plus peut-être de chance que les portes s'ouvrent ailleurs qu'au Paris Saint-Germain. Donc ce qui est un peu rageant, c'est quand certains ont vraiment le potentiel pour réussir au PSG et qui refusent de continuer l'aventure au Paris Saint-Germain
parce qu'ils sont pressés.
Kouassi, ça vous a fait mal au cœur par exemple, Stéphane Roche, voir Kouassi partir au Bayern?
Oui, parce que il avait déjà bien grandi, mais je pense qu'il lui manquait pour avoir, comme beaucoup de jeunes joueurs formés dans un club, réussir à gagner des titres avec son club formateur. C'est des regrets pour certains qui sont partis trop tôt.
Ouais.
Voilà. En fait, c'est surtout ça. Je trouve, tous les garçons qui, voilà, qui ont réussi, comme Lacazette ou Tolisso, tous ces garçons-là, qui ont réussi à gagner quelque chose avec Lyon, sont partis à un moment donné grandir encore plus, parce que ça fait partie aussi de, je dirais, de l'évolution d'un joueur, de partir quand on est formé dans un club.
Ouais, après, c'est vrai que c'était une tradition lyonnaise. Sur la saison à venir, vous pensez que quel jeune aura un rôle à jouer justement sur la saison du PSG ? Est-ce qu'il y en a deux, trois où vous vous dites, bon, lui, il peut espérer gratter un peu de temps de jeu ?
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, Arnaud Calimundo est complètement prêt. Xavi Simons, à travers s'il arrive à rentrer aussi de plus en plus, va être capable d'apporter une énergie formidable. Kenny Nagera a des aptitudes aussi pour
quel poste Nagera
offensive. Kenny, c'est un joueur plutôt à la fois de couloir et de rupture, un petit peu au poste d'attaquant. Voilà, capable de sur une défense fatiguée de créer des brèches et puis d'être dans des coups gagnants. Voilà. Après, c'est encore les autres joueurs sont encore un peu jeunes. Ils vont grandir, comme El Shaddai doit se préparer, mais au contact de grands joueurs comme Ramos, voilà, ça doit aussi encore lui ouvrir tout le travail qu'il a à faire pour se perfectionner.
Est-ce que tu te dis pas, Stéphane, quand t'es un jeune joueur comme ça, t'as 17-18 ans, tu signes ton premier contrat pro au PSG, est-ce que tu te dis pas dans ta tête quand même, vaut mieux que je fasse entre 30 et 35 matchs dans un club de Ligue 1 et de prêter, voire Ligue 2
ouais.
Que de rester au PSG, m'asseoir, regarder. Alors oui, c'est de l'expérience. Oui, tu t'entraînes tous les jours avec des grands joueurs. Mais est-ce que le fait de ne pas jouer, ça peut aussi ralentir ta progression de jeune joueur, ta post-formation?
C'est là où, en fait, quand on se met autour de la table, c'est là qu'il faut faire les bons choix ensemble. C'est-à-dire entre le joueur, le club, son environnement, c'est-à-dire la cellule familiale, son représentant, c'est-à-dire le prêt, il peut être indispensable pour certains.
Voilà. Mmh. Et pas pour tous, toi tu penses que...
Pas pour tous, mais à un moment donné, c'est vrai que ça peut permettre de grandir, de sortir du contexte aussi, où ils ont grandi au Paris Saint-Germain, la préformation, la formation, aussi s'ouvrir encore un peu plus autour de son environnement, je veux dire, sortir un petit peu du contexte familial pour grandir. Et ça, oui, il y a des joueurs qui ont besoin d'un prêt. C'est pareil, à la bonne saison, et je pense que Arnaud Calimundo, ce qui lui permet aujourd'hui d'être complètement opérationnel, il est là.
C'est ce que j'allais vous dire, Calimundo qui a fait une saison au RC Lens, 30 matchs disputés, 8 buts marqués, 6 passes décisives.
Pas mal, hein.
Lui, il a pu éclore ailleurs et revenir justement dans ce groupe et espérer rentrer dans la rotation de Mauricio Pochettino. Dernière question pour vous, est-ce qu'il est vrai aussi qu'on peut avoir de bonnes surprises, des joueurs sur lesquels on mise pas forcément et qui peuvent percer? Tout le monde cite régulièrement Presnel Kimpembe, qui au départ n'était pas le plus talentueux et qui finalement, à force d'entraînement, de courage et de travail, a réussi à faire sa place. Est-ce que ça aussi, ça peut arriver ?
Oui. Il y a des joueurs qui grandissent sans être les plus talentueux au départ vis-à-vis d'autres partenaires, mais qui savent enregistrer les remarques des partenaires, des coachs, qui savent grandir. Et oui, on a des garçons, il y a Edouard Michu qui a une capacité d'écoute qui est très jeune, très frêle encore physiquement, mais qui peut être une belle surprise.
Stéphane Roche, merci beaucoup avec nous. Je rappelle que vous étiez entraîneur des U19 du PSG jusqu'à la saison dernière. Et écoutez, c'était passionnant de vous écouter justement sur cette marche à passer entre les jeunes et le groupe du Paris Saint-Germain. 19h45 dans un instant, le rappel de l'actu foot du jour. Et vous au 32-16, la séance de rattrapage, vous venez aborder le sujet de votre choix avec Fred Piquion. A tout de suite sur RMC.
RMC Football Show, Benoît Boutron.
Avec Fred Piquion jusqu'à 20h sur RMC. Dans 13 minutes, vous retrouverez Adrien Aigouin pour l'After Tokyo 2020. L'analyse complète de la journée pour l'équipe de France avec ce titre olympique décroché notamment en aviron. Je voulais te parler des infos foot de la journée. Ça t'a pas échappé, j'imagine, Fred. Il y a un cluster désormais au sein du club corse de Bastia qui a incité la Ligue à reporter les deux prochains matchs du promu Bastier. 9 cas déclarés et confirmés. 3 gardiens.
Et 3 gardiens en plus.
3 gardiens. Malheureusement, ont le Covid. Et selon le protocole de la LFP, si les gardiens sont contaminés, le match doit être repoussé. Ça commence, effectivement.
Ça commence les reports de match, etc.
Ouais. Et c'est pas fini. Il y a des cas de Covid à Marseille aussi.
La 80%, ils disaient qu'ils étaient vaccinés.
Ouais, mais c'est une vraie question qu'on abordera certainement demain. Est-ce que vous comprenez que les joueurs de foot ne soient pas tous vaccinés? Parce que franchement, ça paraît assez dingue de voir aujourd'hui, avec l'élargissement pour tous de la vaccination, de voir des joueurs, des sportifs professionnels non vaccinés.
Je crois que c'est par rapport à la deuxième
injection. Oui, mais si tu l'as fait tout de suite, tu as déjà eu la deuxième injection quasiment.
Ouais.
Bah oui. Parce que si tu l'as fait fin mai, début juin, t'as pu avoir la deuxième.
Oui, c'est vrai.
Ah bon, bref.
C'est vrai.
C'est une question qu'on se posera demain.
Ok, donc.
Oui, exactement. T'as vu, j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention. Je peux te dire qu'à RMC, on était à la pointe de toutes ces questions. Tiens, on va retrouver d'ailleurs Clément Brossard, qui est sur le match entre la Real Sociedad et Monaco. Il y a eu un cas de Covid à Monaco d'ailleurs, Clément. Hein.
Ouais, exactement. Wilson Isidore, l'attaquant qui a été détecté positif au Covid. Bon, il a pas de symptômes, il va bien, mais en tout cas, il n'était pas présent pour ce match face à la Real Sociedad. Tu peux aussi être vacciné et avoir le Covid.
Oui, c'est possible.
C'est un petit pourcentage, mais ça peut arriver. En tout cas, il y a 2-1 pour la Real Sociedad. Ils ont repris l'avantage. Les Basques, la frappe à venir de Fabregas finalement dans les bras du gardien basque. 2-1. Donc, Janjaz avait ouvert le score à la 4e, égalisation de Golovin juste avant la pause. Et puis, vous connaissez ce match amico, on change toutes les équipes, notamment la Real Sociedad qui a vraiment changé ses 10 joueurs. Petit à petit aussi, Nico Kovac y est arrivé. Et puis à la 70e, c'est William José qui a pris le dessus sur Pavlovic de la tête. Donc il reste désormais une petite minute pour éviter à Monaco de terminer cette belle série de matchs amicaux par une défaite avant le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions mardi.
Ok, merci Clément. Tu nous confirmeras le score final dans un instant. Il y a une info que je voulais partager avec toi, Fred.
Laquelle ?
Les têtes en Angleterre. Est-ce que tu as vu ça, cette info passée après la découverte des impacts sur le cerveau dû à la multiplication des coups de tête par les footballeurs, les instances dirigeantes du foot anglais ont recommandé de limiter le nombre de têtes de force supérieure à 10 par semaine à l'entraînement. En fait, une tête de force supérieure, je t'explique ce que c'est.
Ouais.
C'est considéré comme ça lorsque la tête vient après une longue passe d'à peu près 30 ou 35 mètres, donc un long centre et où tu dois reprendre le ballon de la tête. Tu vois, ça fait un sacré choc pour ta tête sur un centre, un corner ou un coup franc.
Ah, je me disais aussi pourquoi je suis comme ça.
Ouais, c'est ça, certainement. C'est pour ça que tu as un problème à te concentrer.
J'ai posé des soucis.
Exactement. Donc, limiter à 10 par semaine, c'est l'idée de la fédé anglaise de foot.
C'est impossible.
Qui veut limiter les chocs comme ça, surtout le foot en Angleterre, limiter les têtes.
L'avant-centre, il en fait au moins 30 par match. Donc,
exactement.
C'est un peu compliqué.
Tu vois les entraîneurs compter à la semaine. Enfin bon, à voir si ça va au bout. Ouais, d'ailleurs, les instances anglaises sont un peu à la pointe de toutes ces questions, puisqu'on rappelle qu'ils ont instauré un truc en
protocole
qui est très bien. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur sort ce protocole commotion, eh bien, l'équipe peut avoir un changement supplémentaire pour le remplacer. Tu vois?
Ouais, ça c'est bien. Ça, c'est et bien, après ça. Aussi, moi, ça m'est arrivé en MLS. Mm-hmm. C'est-à-dire que sur un long dégagement, on en parlait, ouais. Un long dégagement, je fais une déviation. Et il y a le défenseur central, donc, qui me fait tête contre tête. Et après, j'ai le
KO.
Trou noir.
KO.
Et ensuite, il y a protocole, bien évidemment. Il y a des tests aussi sur un ordinateur. Ouais. Pendant quelques jours, tu reprends pas l'entraînement. Il y a un vrai suivi. Ouais, tu reprends pas l'entraînement comme ça.
Allez, la séance de rattrapage, vous vouliez parler avec Fred des sujets qu'on a abordés durant ces deux heures. On commence par Maxime, qui évidemment voulait revenir sur le fiasco de l'équipe de France olympique. Salut Maxime.
Oui, salut, bonsoir Benoît, bonsoir Frédéric, et merci d'avoir pris soin de me donner la parole
avec ce soir. Plaisir.
Effectivement, sur l'équipe de France olympique, c'est vrai ouais. que... c'est vrai qu'on parle souvent sur ces périodes d'addition ou sélection, composition de joueurs de talent, comme l'a dit Hubert Fournier tout à l'heure ou Sylvain Ripoll dans son choix qui s'est décarcassé pour essayer de constituer l'équipe. Et c'est vrai que moi, ce que j'entends peu finalement, c'est dans la composition des joueurs ou le choix de l'équipe, c'est justement l'aspect socio-affectif des garçons qu'on va utiliser et qui vont composer ce groupe pour, j'allais dire, une mission commando quelque part d'une quinzaine de jours également pour les Jeux Olympiques. Et on n'est pas sur une saison classique de championnat où on intègre un groupe, où il faut du temps. On sait à l'avance que de toute façon, par rapport à la préparation olympique, ça sera très court. Et j'entends rarement, voire quasiment jamais, les entraîneurs parler de l'aspect socio-affectif. Je m'explique, c'est qu'on prend des joueurs techniques. Oui, en France, il y en a. Des grands comme Fred Piquion, rapide, intéressant, bon buteur, il y en a. Des joueurs tactiquement. Bon, voilà, le seul souci, c'est que leur façon, leur capacité à créer du lien rapidement, comme l'a dit Dédé Gignac au tout début de la compétition, qui s'est efforcé de dire on va essayer de créer un groupe rapidement, on est des frères, tout ça. Bon, mais voilà, et je pense que ça pêche à ce niveau-là. D'être capable dans le recrutement, la composition de la sélection des joueurs, on le voit bien, et il manque, une capacité à choisir ces garçons-là.
Mais Maxime,
qui sont capables de créer des liens pour lesquels ça
remonte. Maxime, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est tellement compliqué pour un coach de.
Exactement.
Pourquoi? Parce qu'en plus, pour un coach, mais c'est parce qu'aussi, ce sont des garçons qui n'ont pas été suivis par la fédération. Alors, quand t'as un joueur qui fait les 16, 17, 18, 19, 20, et puis ensuite qui arrive en espoir, le cursus classique, on va dire, pour un joueur. Et c'est ce qui s'est passé, hein, pour beaucoup d'entre eux qui se sont qualifiés pour la phase finale de l'Euro et pour les JO. Mais pour le reste qui est arrivé, là, il y a plus de 60% des joueurs qui n'ont jamais connu quoi que ce soit, et les entraîneurs ne les connaissent pas finalement. Et même entre joueurs, c'est compliqué, ils se connaissent pas du tout.
Ouais, mais Fred, moi, ce que j'entends avec Maxime, c'est que ce qu'on a vu souvent chez les espoirs ou les équipes de France de jeunes, c'est qu'on entasse des noms comme ça, des joueurs de talent, sans penser justement à la cohésion de groupe, ce qui est quand même la grande force de Didier Deschamps, qui lui sait créer des groupes qui mentalement sont costauds et qui peuvent réagir dans les moments difficiles. C'est ça que tu voulais dire, Maxime, en gros. Hein.
Non, et justement, Frédéric connaît bien le système. Ouais. À l'époque, quand on doit aller en équipe de France en U16, en U17 ou U18, c'est souvent l'entraîneur du propre club ou directeur du centre de formation qui appelle le DTN et qui dit voilà, j'en tiens un, il est rapide, il est technique et ceci, cela. Mais par contre, sur l'aspect mental, pas juste d'être un guerrier, il faut être capable de créer du lien rapidement, et dans ces choix-là, il faut que Sylvain Ripoll ou l'autre sélectionneur qui arrivera ou par la suite, parce qu'il faut bien changer quelque chose, parce qu'a priori Hubert Fournier dit qu'il voulait changer, mais sans changer d'entraîneur et sans changer, et il n'a pas vraiment de plan, je suis désolé, par rapport à Paris 2024. Le souci, c'est juste se dire, eh bien, les entraîneurs, c'est collectivement qu'on peut y arriver. Il faut que les directeurs des centres de formation, les entraîneurs qui ont ces joueurs-là, ils donnent les infos, les bonnes infos pour qu'on fasse une équipe de guerriers, mais aussi technique. On ne veut pas que juste des soldats capables d'aller 15 jours. Ouais. Non, il faut le talent plus le coq sur le maillot. Et pour finir, je voulais juste simplement dire que je ne sais pas si ça représente quelque chose finalement pour ces jeunes, le coq tricolore. Plus que pour nous, pour Frédéric, à notre époque, nous on connaissait, on était des vrais fans de sport, on connaissait.
Ouais, après ça, c'est un peu dur de leur imputer. Je pense qu'ils ont quand même l'amour du maillot et l'envie de disputer ces Jeux Olympiques. C'est plus un problème de composition, tout ça, pour expliquer cet échec. Je pense que tous avaient envie de représenter l'équipe de France aux Jeux de Tokyo. Et d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas venus, pour la plupart. Merci Maxime d'avoir été avec nous au 32-16. 19h55, Clément Brossard, rapidement, c'est terminé entre la Real Sociedad et l'AS Monaco.
Hein. Terminé le cinquième et dernier match de préparation de l'AS Monaco. Donc se conclut par une défaite de but. Deux enseignements. Aïe. Il y a juste un joueur qui a disputé tout le match, c'est Alexander Nübel. Et sinon, bonne nouvelle aussi avec l'entrée en jeu, ou du moins ils étaient titulaires, Wissam Ben Yedder et Kevin Folland. C'est de bonne augure pour mardi. Troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Il y aura le retour le 10 août, et puis entre deux, la première journée de Ligue 1 face à Nantes vendredi prochain. Programme chargé pour les Monégasques.
Merci Clément, bonne soirée à toi. On va se retrouver tout au long de la semaine prochaine, bientôt, évidemment, avec beaucoup d'enjeux pour l'AS Monaco. Je remercie Simon, supporter de Bordeaux, qui voulait nous appeler au 32-16. Désolé, le temps presse, donc on n'aura pas le temps de te prendre. Tu peux appeler l'after pour parler de la situation des Girondins de Bordeaux. Juste un mot de conclusion sur l'AS Monaco avec toi, Fred. Ouais. Bon, un match amical comme celui-là, c'était le dernier. Là, ça y est, Monaco doit rentrer en mode commando pour le match de mardi de la semaine prochaine.
Oui, parce que
préliminaire, plus, ils vont
ils vont pas avoir de match ce week-end, donc il y a vraiment une semaine pour se préparer. Et puis c'est bien qu'il y ait le duo qui puisse revenir aussi, retrouver des automatismes. Ça c'est super bien aussi. Et puis voilà, il n'y a pas eu de blessés. Donc là aussi, on est plutôt confiant. Donc voilà, bien préparer ça. Je pense qu'ils ont hâte de savoir aussi leur adversaire, bien préparer les vidéos, les montages, pour que Monaco puisse passer ce tour et surtout aller en Ligue des Champions. Moi, je suis monégasque.
Évidemment, toi qui as joué à l'AS Monaco. Merci Fred, je te retrouve demain 18h-20h à l'URMC Football Show, et tout de suite, on passe la parole.
Plein d'infos.
Adrien Aiguin, encore une médaille d'or.
Là, bim, on arrive, c'est de l'or.
Ça, c'est
Benoît
l'effet Aiguin,
et Fred. Ouais. Ouais, c'est l'effet athlète, surtout, c'est l'effet aviron.
Ah, c'est pas l'effet Aiguin, alors, l'effet athlète.
Non, pas du tout. Non. Nous allons revenir sur cette magnifique journée. Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, médaillés d'or en aviron sur la catégorie. Et Benoît, tiens, t'as la catégorie de
champion
olympique. Comment ?
Deux de couple poids léger ?
Deux de couple, tout à fait. Bravo,
ouais.
Benoît.
Ah oui, mais je suis là, évidemment.
Et puis, il y avait une grosse journée pour les équipes de France de sport collectif aujourd'hui. Oulala. Alors, ça va très bien pour le hand, ça roule.
Ah
ça
oui.
va très, très, très bien pour le basket.
Ah oui.
Alerte rouge pour le volley. Ce que ça s'appelle une grosse alerte rouge.
Exactement.
Et c'est l'avion pour l'équipe de France de foot. On va en parler, l'équipe de France d'André-Pierre Gignac. Venez aussi vous exprimer. C'est un sport olympique, c'est une équipe de France olympique. Comment expliquez-vous le fiasco de cette équipe de France? Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Vous avez fait un bon débat, je vous ai écouté.
Exactement. Bah écoute, vous pouvez le refaire avec
Sarah. On rediffuse si vous voulez. L'After Tokyo 2020, c'est tout de suite sur RMC.